La semaine dernière, on a commencé notre réflexion sur le thème les uns les autres. Et la semaine dernière, on avait constaté que l'Église fonctionne un peu comme une vitrine qui est censée donner envie de s'approcher de Dieu. Et je vous propose cette image-là. Les chrétiens, ils se savent aimés par Dieu. Leurs besoins fondamentaux d'amour éternel et de sécurité sont comblés. Alors les chrétiens sont disponibles pour les autres. Ils sont disponibles pour aimer Dieu en retour et pour aimer Dieu les autres, parce qu'ils se savent aimés. Nous avions vu que cet amour que nous sommes appelés à avoir les uns pour les autres ne se limite pas aux besoins psychiques et physiques de l'être humain, mais va jusqu'aux besoins spirituels. Pourquoi? Parce que le plus grand besoin de l'être humain, c'est de se savoir pardonner par Dieu. C'est d'être en paix avec son Créateur. Donc voilà, l'Église comme une vitrine qui invite à se rapprocher de Dieu, une vitrine censée être alléchante. Et nous avions aussi lu pendant le culte la semaine dernière ce verset qui nous présente l'Église comme une vitrine. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Le problème, c'est que parfois la vitrine, elle perd de son attrait. Ça arrive. Ça arrive parce qu'on a beau vouloir aimer l'autre, c'est pas toujours facile. Dans sa pièce de théâtre Huis clos, Jean-Paul Sartre a écrit des mots que quasiment tout le monde a en tête. Tous ces regards qui me mangent, pas besoin de grill, l'enfer, c'est les autres. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la façon avec laquelle Jean-Paul Sartre utilise cette image de l'enfer. Personnellement, je ne crois pas que ça soit ça, l'enfer. On en avait parlé dimanche dernier. Mais en tout cas, je comprends ce qu'il a voulu dire. C'est vrai qu'on est tous différents. Tous différents. Que on pourrait avoir l'impression d'être jugé par les autres. Et il arrive que certaines personnes ne viennent pas à l'Église parce qu'elles se sentent jugées. Vous voyez là, donc la nécessité de réfléchir ensemble, et c'est ce que nous faisons ce matin, à notre façon de nous accueillir mutuellement. Et je vous invite à lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, les 7 premiers versets. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas recherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Voilà pour notre passage. Dans ce passage, on a des consignes de la part de Paul, des consignes même très pratiques qui s'adressent aux chrétiens de Rome pour qu'ils puissent s'accueillir dans leurs différences. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce passage dans l'Épître aux Romains? Eh bien parce qu'il y a des tensions. Il y a des tensions dans l'Église de Rome à l'époque. Des tensions qui gênent l'acceptation mutuelle des uns et des autres. Dans cette Église à l'époque, il y avait des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire des non-juifs. Et sur des points précis, sur des comportements précis, sur des convictions précises, eh bien, ces deux groupes ne s'entendaient pas. Ils n'avaient pas les mêmes idées, ils n'avaient pas les mêmes fonctionnements. Et ça mettait à mal l'Église, tout simplement. Et Paul va leur donner deux raisons pour s'accueillir mutuellement. Et c'est ces deux raisons-là que nous allons étudier ensemble maintenant. Il leur demande de s'accueillir, un, pour faire grandir l'autre dans la foi, dans sa foi, et deux, s'accueillir pour la gloire de Dieu. Et donc je vous propose que nous regardions un peu plus en détail chacun de ces deux points. S'accueillir mutuellement pour faire grandir l'autre dans sa foi. C'est le premier point. Et ça commence au verset 1, par ces propos. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Une histoire de forts et de faibles. De quoi est-il question exactement ? Eh bien, en suivant le raisonnement de Paul, il faut remonter un peu dans le chapitre 14. On se rend compte qu'on est tous forts dans certains domaines et faibles dans d'autres domaines. Notre foi est faible lorsque nous devons éviter certaines activités, éviter certaines personnes, éviter certains endroits, afin de protéger notre vie spirituelle. Je voudrais vous donner un exemple. Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens de tous les temps, 4e siècle, à l'époque, les représentations théâtrales étaient très sexualisées de son temps. Et il écrit dans son livre qui s'appelle « Les Confessions », il écrit qu'il n'allait plus au théâtre parce que ça réveillait en lui des pulsions sexuelles qu'il n'arrivait pas à gérer. Et donc, il se protégeait cette faiblesse de sa foi en n'allant plus au théâtre. Alors, dans sa lettre aux Romains, Paul, il n'adresse pas ce type de questions liées à la sexualité. Il prend l'exemple de l'alimentaire, l'alimentation. Et pourquoi ? Parce qu'il y a certains chrétiens qui mangeaient de tout et d'autres qui n'arrivaient pas à manger de tout pour des raisons de conscience. Et il donne trois exemples, Paul. Trois exemples. Le premier, certains chrétiens d'origine juive qui avaient du mal à manger certaines viandes déclarées impures dans l'ancienne alliance. Alors, ça avait changé. Jésus avait fait voler en éclats tout ça, mais quand même, même s'ils savaient que leur salut n'en dépendait pas, certains chrétiens d'origine juive avaient du mal à manger du porc, par exemple. C'était choquant encore pour eux. Faiblesse, faiblesse dans la foi ici des juifs, des chrétiens d'origine juive. Mais vous allez voir qu'il y avait aussi des faiblesses pour les chrétiens d'origine païenne, et eux aussi pouvaient avoir des difficultés à manger de la viande. C'est lié au circuit de la viande à l'époque. En fait, les animaux qui étaient offerts en sacrifice, par exemple à Zeus ou à d'autres divinités, une fois qu'ils étaient offerts en sacrifice, ils pouvaient se retrouver dans le circuit classique de l'alimentation. Et donc, quand vous achetiez une côte de bœuf, si vous achetiez une côte de bœuf au marché à l'époque, vous pouviez vous retrouver avec ce bœuf qui avait été offert en sacrifice à une autre divinité avant. Et donc, c'était encore plus problématique pour des chrétiens d'origine païenne qui avaient vécu cette idolâtrie-là avant, dans les temples païens. Là, ici, fragilité de la foi de ces chrétiens d'origine païenne, cette fois-ci. Et puis, pour couronner le tout, pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, une troisième faiblesse dans la foi, cette fois-ci, transversale. Des chrétiens qui étaient convaincus par l'ascétisme. Ils pensaient qu'il fallait discipliner le corps et ils ne voulaient plus manger de viande. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne mangeaient que des légumes. Là aussi, faiblesse dans leur foi. Et dans tous ces cas-là, Paul, il a la même conclusion. Aussi bien les lois alimentaires de l'Ancien Testament que les sacrifices aux païens, le chrétien est libre de manger de tout. Faire de telles distinctions, c'est avoir une foi dite faible. Une foi, une conscience insuffisamment éclairée. Et que fait-on alors ? Que faire quand on est face à un chrétien qui a une conscience faible sur certains points ? Eh bien, Paul insiste pour que cette conscience faible ne soit pas bousculée par une attitude qui serait supérieure ou égoïste. Et il dit, je reprends la lecture, « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Alors il va loin, Paul. Il est en train de nous dire, vous les forts, ou vous qui vous croyez forts, renoncez à votre liberté. Renoncez à votre liberté pour accueillir ceux qui sont plus faibles. Rien de moins que ça. pour l'aider à grandir, pour qu'il ne se sente pas agressé. Et quelques versets avant, dans le chapitre 14, il dit « Cessons de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire tomber ou trébucher. » Donc vous voyez que l'enjeu de l'accueil est grand. C'est ne pas choquer un frère qui est plus faible dans la foi. Ça serait prendre le risque de l'empêcher d'accéder à Dieu. Ça peut détruire sa foi. Je voudrais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu dans le groupe de jeunes à mon arrivée à l'église de Castres, dans mon poste précédent. Il y avait dans ce groupe de jeunes à l'époque une famille qui avait touché à l'occultisme, et en particulier à la nécromancie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais la nécromancie, c'est le fait de rentrer en contact avec les morts pour leur parler ou pour connaître l'avenir, ou voilà, la nécromancie. Et à cette époque-là, dans le groupe de jeunes, quasiment à chaque fois, on jouait à un jeu qui s'appelle le loup-garou. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu également. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de rôle, dans lequel il y a une voyante et une sorcière. Et ça reste un jeu, mais cette famille avait été véritablement ébranlée dans sa foi d'apprendre que nous avions joué à ce jeu de cartes avec leur jeune ado. Ça les renvoyait à leur passé dans l'occultisme. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait dans le groupe de jeunes en apprenant cette faiblesse dans leur foi ? Eh bien, on a essayé de faire ce que Paul nous demande ici. On a arrêté de jouer au loup-garou. On n'a pas recherché notre propre satisfaction. On a visé la satisfaction de cette famille, de cette jeune femme qui venait, de cet ado qui venait au groupe de jeunes et dont la foi pouvait être ébranlée par ce jeu. Pour cette même famille, lire Harry Potter, c'était complètement inenvisageable non plus. Alors que pour moi, ce n'est qu'un livre qui ne perturbe pas ma foi. Mais prenons soin les uns des autres dans nos faiblesses respectives. Alors un autre exemple qui est un exemple très classique, si vous invitez un ami chrétien à votre table et que vous savez qu'il ne boit pas d'alcool pour des raisons de conscience, ben vous n'allez pas lui en servir, ça paraît tellement logique. Pour ne pas être une cause de chute pour lui, pour ne pas l'entraîner à faire quelque chose qu'il considère comme mal à ses yeux, qu'il considère comme mal aux yeux de Dieu. L'enjeu, là aussi, est grand. Il s'agit de ne pas faire obstacle à la foi de l'autre. Alors voilà, comment nous accueillir les uns les autres ? Eh bien, en tenant compte des faiblesses de chacun, afin de ne pas faire tomber l'autre. Et ça consiste souvent à ne pas juger les opinions de ceux qui sont mal affermis dans la foi, de ne pas chercher à rentrer en polémique avec eux. Il faut reconnaître que ce que nous dit Paul ici, ça peut changer fondamentalement notre façon de concevoir l'Église. Qu'est-ce qu'une Église ? Ben, souvent, on vient à l'Église pour nous-mêmes, pour nos besoins personnels, pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'on puisse avoir de la joie à louer Dieu ensemble, pour être enseigné dans la parole, pour pouvoir être encouragé par la présence des uns et des autres. Mais en fait, là, Paul nous dit, mais venez à l'Église, non pas pour vous-même, mais pour les autres. Pour chercher le bien de l'autre. Et pour le coup, quand on n'est pas là, eh bien, on manque aux autres. On prive l'autre de qui on est. On prive l'autre de nos dons. On prive l'autre de notre encouragement. Et on a tous besoin les uns des autres. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Paul, ici, il montre la grandeur de cet objectif qui est de donner à l'autre. Accueillir l'autre, supporter ses faiblesses, pour faire quoi ? Pour le faire grandir dans sa foi. C'est vrai que quand on se sent aimé, quand on se sent accueilli, eh bien c'est là qu'on progresse. C'est là qu'on progresse. Et c'est cet exemple-là que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce que Paul dit dans la suite du passage. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Au contraire, le Christ, il a cherché notre satisfaction. Il a donné sa vie pour nous, pour nous réconcilier avec Dieu, pour payer le prix de nos fautes, pour qu'on n'aille pas en enfer, mais qu'on aille au paradis, auprès de Dieu. Et pourtant, Jésus, ça lui a coûté de chercher notre satisfaction et pas la sienne. Il était le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Il vivait la gloire parfaite avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit pour l'éternité. Il pouvait être cool dans sa propre satisfaction, mais il n'a pas cherché sa propre satisfaction. Il est devenu l'homme Jésus-Christ et il a souffert pour nous. Il a donné sa vie pour nous sauver. Le verset 3 dit que les insultes de ceux qui t'insultent, les insultes de ceux qui insultent Dieu seront tombées sur Jésus-Christ. Il a payé pour notre méchanceté. Et donc, comme le Christ a cherché notre satisfaction à nous, eh bien recherchons la satisfaction des autres plutôt que la nôtre également. C'était le premier point et cet exemple si énorme de Jésus-Christ qui a cherché notre satisfaction pour nous faire grandir. On continue avec le deuxième point maintenant. La suite du raisonnement de Paul. S'accueillir cette fois-ci pour la gloire de Dieu. Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, en gros, la Bible, la parole qui nous a été laissée par Dieu. Ici, particulièrement, je pense à la mort de Jésus-Christ à notre place. C'est pour que cela nous serve. A été pour nous instruire. Pour nous instruire et nous encourager ici à la patience, à l'encouragement et produire en nous l'espérance. Trois mots que j'ai mis en jaune ici. Et c'est vrai que ça fonctionne, ça fonctionne. La parole de Dieu fait véritablement naître en nous l'espérance. L'espérance qu'un jour, on sera auprès de Dieu, qu'on le verra face à face. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Nous aurons des corps parfaits, ressuscités, comme celui de Christ, qui ne connaîtront plus la souffrance. La justice habitera de façon définitive. Bonheur éternel auprès de Dieu, parce que Christ nous a réconciliés avec lui. Voilà où la parole de Dieu nous conduit, elle nous instruit pour nous mener à cette espérance. Pardon. Et cette espérance, elle est pour quand ? Elle n'est pas pour notre ici-bas. Elle est pour plus tard, pour après notre mort, elle est pour le jugement dernier, quand nous serons épargnés au cours de ce jugement. Dieu n'a pas décidé de nous épargner toutes les souffrances de l'existence. Mais il y a un mais. Cette espérance, ok, elle est pour plus tard, mais elle transforme quand même notre quotidien. Et on le voit ici, Paul dit que cette espérance devrait déboucher sur quoi ? Je l'ai souligné, vivre en plein accord les uns avec les autres. Donc vous voyez comment cette espérance pour l'avenir doit transformer notre vécu ici-bas, notre vécu collectif. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Si des chrétiens d'origine juive n'arrivent pas à s'entendre avec des chrétiens d'origine païenne et qui vivent dans la même église, il y a problème. Si des chrétiens ascétiques qui pensent qu'il ne faut manger que des légumes n'arrivent pas à s'entendre avec les autres chrétiens qui mangent de tout dans la même église, alors ça pose problème. Parce qu'on ne se retrouve plus avec une seule église, unie, pour vivre en plein accord les uns avec les autres. Non, on se retrouve avec une multitude d'églises qui ne peuvent pas s'entendre les uns avec les autres. Cette unité que Dieu souhaite, c'est la suite d'un même cœur et d'une seule voix pour célébrer la gloire de Dieu. Et c'est vrai que si on n'est pas ensemble, si on n'est pas unis, on ne peut pas célébrer ensemble la gloire de Dieu. Accueillir l'autre pour célébrer la gloire de Dieu, tous ensemble. Comment est-ce qu'on fait avec toutes nos différences ? Comment on s'en sort ? Eh bien, là encore, Paul reprend l'exemple du Christ. Encore une fois, dans le même passage, à deux reprises, on retrouve le Christ donné comme exemple. Comment est-ce que Christ a fait ? Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que Christ nous a accueillis ? Eh bien, il nous a accueillis alors qu'on était des êtres indignes, on était des êtres coupables. On ne méritait que la colère de Dieu et son jugement. Et Christ nous a accueillis. Il a porté sur la croix le poids de nos fautes, alors que nous étions ses ennemis. Il est mort pour nous. Et donc, on est bénéficiaire d'une grâce infinie. une faveur que nous ne méritons pas. Et on doit accueillir l'autre de la même façon. On doit accueillir l'autre de façon imméritée. Parce que si Christ avait attendu que nous soyons parfaits pour nous accueillir, eh bien, il aurait accueilli personne. Personne. Aucun d'entre nous n'est parfait. Accueillir l'autre, c'est lui faire un cadeau qu'il n'a pas mérité, parce que nous avons nous-mêmes reçu ce cadeau non mérité de la part de Dieu. Je voudrais vous donner un exemple. C'est un ami à moi qui fumait énormément quand il a rencontré le Seigneur. Et la première église évangélique qu'il a fréquentée, il n'y est pas resté bien longtemps. Pour tout vous dire, il a assisté à un culte. À la fin de son premier culte, il est sorti pour fumer. Et des gens qui pourtant étaient très sympathiques lui sont tombés dessus en lui disant qu'on ne peut pas être chrétien et fumer en même temps. Ben, il n'est pas revenu dans cette église. Heureusement qu'il a persévéré. Et dans la deuxième église qu'il a fréquentée, il a rencontré des chrétiens patients qui ont su l'accueillir avec ses cigarettes. Ils n'ont pas attendu qu'il soit parfait pour l'accueillir. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et vous savez ce qu'il fait aujourd'hui dans la vie, mon copain ? Il est devenu pasteur. Comme quoi, ça mène à tout, la cigarette. Il est devenu pasteur et il a arrêté de fumer, même si je le suspecte d'en griller une de temps en temps. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est peut-être difficile de dire bibliquement si la cigarette est un péché ou pas, parce que de cigarettes, il n'y en avait pas à l'époque et on n'en parlait pas. Mais néanmoins, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, alors on devrait plutôt en prendre soin de ce corps que Dieu nous a confié. D'autant que aujourd'hui, les ravages de la cigarette, tout le monde les connaît. Ils sont affichés sur les paquets de cigarettes. Et être dépendant de la nicotine, ce n'est pas non plus ça, être libre pour Christ. En tout cas, au bout de quelques années de vie chrétienne, Dieu lui a donné la force d'arrêter la cigarette. Œuvre de l'Esprit Saint en lui, mais œuvre qui a pris du temps. Et il loue le Seigneur pour l'accueil qu'il a reçu dans cette deuxième église. Il a trouvé dans cette deuxième église cet espace de liberté, liberté sans laquelle il n'aurait pas pu progresser en sainteté. Alors, vous allez me dire, mais ok, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut tout tolérer ? Est-ce qu'on doit tout accueillir ? Où est-ce qu'on place la limite ? C'est vrai que c'est une question assez costaud. Les péchés, quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu. Est-ce qu'on doit accueillir les péchés des autres ? Eh bien, je dirais que si c'est un chrétien engagé de longue date, non. On ne peut pas, on ne doit pas accueillir les péchés de quelqu'un qui se revendique chrétien de longue date. Nous devons au contraire nous reprendre et nous exhorter les uns les autres à la pratique du bien. Et Paul, il est extrêmement dur avec ceux qui se revendiquent chrétiens et qui ont une mauvaise attitude, une mauvaise conduite notoire. Il dit dans 1 Corinthiens, « Chassez le méchant du milieu de vous. » Alors, il le définit, le méchant. Hein. Il a fait des trucs énormes. Il faut lire 1 Corinthiens d'abord. Et on ne parle pas de fumer une cigarette ici. Mais si c'est un jeune croyant qui vient de découvrir Jésus-Christ, alors très certainement qu'il nous faudra l'accueillir tel qu'il est. Ce qui ne veut pas dire le laisser dans cet état-là. Au contraire, c'est l'accueillir tel qu'il est et l'accompagner. L'accompagner, le conduire pour aller plus loin. Et il faut du temps pour comprendre dans la parole de Dieu toutes les implications de cette parole dans notre vie. Je voudrais vous donner un autre exemple. Vous les connaissez. C'est Céline et Thomas Roland qui étaient passés ici il y a de cela peut-être un an et demi maintenant. Ils sont missionnaires à Mayotte. Ils sont issus de notre union d'église. Et ils le racontent. C'est quelque chose qu'ils racontent eux-mêmes. Donc je ne suis pas en train de livrer un secret pastoral. Quand ils sont arrivés à Toulouse, il y a une vingtaine d'années, ils sont entrés dans une église, je peux la dire, hein, c'est l'église réformée évangélique de Toulouse. Et Céline Thomas vivait en concubinage à l'époque. Céline n'était pas issue des milieux chrétiens. Je ne sais pas où elle en était exactement à ce moment-là. Et Thomas, lui, avait un arrière-plan. Il était né dans une famille chrétienne, mais il avait un peu rejeté tout ça. Et à un moment dans leur vie, ils se sont sentis l'appel à se rapprocher d'une église. Et ils ont débarqué dans cette église à Toulouse. Et ils se sont dit, en entrant dans cette église, si quelqu'un nous fait une remarque sur le fait qu'on n'est pas marié, on n'y reviendra plus jamais. Et il se trouve que personne ne leur a rien dit. Bon, peut-être qu'ils avaient bien choisi l'église, aussi dans les églises réformées évangéliques, on ne dit pas grand-chose, et c'est bien, ça a aidé dans ce cas-là. Personne ne leur a rien dit, et ils ont cheminé dans cette église. Jusqu'au jour où, à force d'encouragement des frères et sœurs, à force d'études bibliques, à force de méditation, ils ont compris que Dieu les appelait à aller plus loin dans leur couple et à s'engager. Et ils se sont mariés. Et aujourd'hui, ils sont même engagés à plein temps pour le Seigneur. Vous voyez, là aussi, ça peut mener loin. Le désir de repentance, la soif de changer de vie pour Christ, c'est sans doute un critère à prendre en compte pour savoir jusqu'où aller dans l'acceptation des péchés de l'autre. Mais c'est sûr qu'on doit être patient les uns avec les autres. Mais il y a un point sur lequel Paul est plus tranchant, un point sur lequel il dit qu'il n'y a pas de compromis. Pas de compromis dans l'acceptation et dans l'accueil. Ça, c'est dans sa lettre aux Galates. Il dit, si quelqu'un vous annonce un évangile différent, qu'il soit maudit. Quand ça touche le cœur de la foi chrétienne, quand ça touche ce que Christ a fait pour nous à la croix, le fait qu'on est accueilli par grâce parce que Christ est mort pour nous. Ça, il n'y a pas de compromis possible. Si quelqu'un annonce quelque chose de différent, on ne peut pas l'accueillir, nous dit Paul. Et c'est pourtant ce même Paul qui nous dit ici dans Romains, chapitre 15, ben, « Accueillez-vous mutuellement. » Il y a des choses qui excluent, et c'est un autre évangile. C'est un enseignement qui n'a pas Christ au centre. C'est vrai que la distinction peut être subtile, elle peut être difficile à faire. On le voit ne serait-ce que dans l'Église primitive avec ses histoires de viande et de viande ou de pas viande. Mais même si certains s'abstiennent de manger la viande, ben ça ne remet pas en péril la foi de l'Église. Certains ont juste une conscience un peu moins éclairée que d'autres et il faut accueillir ceux qui sont faibles. En revanche, ceux qui viennent enseigner dans les églises de Galatie que pour être chrétien, il faut absolument se faire circoncire, ça, c'est un autre évangile. Parce que ça ne nous est pas demandé. On est à Christ par grâce. Sans aucune œuvre à faire de notre part. L'Église doit rester attachée à la vérité. Elle doit rejeter l'erreur et le mal, mais elle doit aussi transmettre cet accueil du Christ pour les humains qui sont égarés et pécheurs. Vous vous souvenez de ces paroles de Jésus ? Jésus a dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler des pécheurs. » Heureusement que Jésus n'a pas attendu que nous soyons dans la vérité pour nous accueillir. Il nous a accueillis pécheurs et dans l'erreur pour nous offrir son pardon et pour nous ouvrir à la vérité. Et donc, on est conviés, nous aussi, à faire rejaillir cette grâce sur les autres. Il y a de la place dans les églises, pour un cheminement de chacun, cheminement qui va bien entendu de l'erreur à la vérité, cheminement qui va du péché à la sainteté. Et on est tous quelque part sur ce chemin, mais aucun d'entre nous ne peut se prévaloir d'être arrivé au bout et d'être parfaitement saint. On est là pour plutôt s'accompagner mutuellement sur ce chemin. Alors qu'est-ce que tu trouveras ici, dans cette église, parmi nous ce matin ? Tu trouveras des frères et des sœurs qui t'écouteront avec patience, qui t'aideront à penser tes blessures mal cicatrisées, qui t'aideront à te relever et à avancer. Pourquoi ? Pour qu'on puisse louer Dieu ensemble, dans sa gloire, pour sa gloire. Tu trouveras dans cette église des gens de presque tous les milieux sociaux, je dirais, de tout âge, de toute race, venant d'arrière-plans ecclésiaux différents également. Tu trouveras des athées, des catholiques, des réformés, des libristes, des pentecôtistes, même des témoins de Jéhovah, même des mormons. Et pourquoi on ne s'entretue pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'entretue pas alors qu'on arrive chacun avec des convictions différentes ? Des convictions différentes sur ce que devrait être un culte, des convictions différentes sur ce que devrait être la prédication, des convictions différentes sur ce que devrait être la louange dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'on ne s'entretue pas ? Pourquoi ce n'est pas la boucherie ici ? Parce qu'on a tous ce même désir que Paul affirme ici. ce désir d'être ensemble, unis, pour célébrer la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on s'accueille mutuellement, dans nos différences, pour célébrer ensemble la gloire de Dieu, pour être unis, pour porter nos faiblesses les uns les autres et avancer dans la foi, chacun. Il faut dire que Christ, il nous a déroulé le tapis rouge, hein. Il nous a accueillis, mais par la grande porte. Alors oui, on s'accueille nous aussi par la grande porte, s'il vous plaît. On n'attend pas que l'autre fasse le premier pas. C'est une exhortation réciproque, ok, accueillez-vous mutuellement les uns les autres, mais si l'autre attend que ce soit l'un qui fasse le premier pas, on est mal barré. L'amour, comme la haine, c'est souvent fait de petits pas l'un vers l'autre. Alors n'hésitons pas à faire les premiers pas, et je sais que vous le faites. Invitons-nous les uns les autres, ou plutôt continuons à nous inviter les uns les autres, pour apprendre à mieux nous connaître et pour manifester notre accueil mutuel. Conclusion. Vous avez vu ces deux points qu'on a vus ensemble. Ces deux points, accueillir l'autre et porter ses faiblesses pour pouvoir l'aider à grandir dans sa foi et accueillir l'autre comme Christ l'a fait avec nous pour la gloire de Dieu, pour nous conduire dans la célébration de la gloire de Dieu. Et je vous laisse avec une image qui résume, me semble-t-il, cet enseignement de Paul sur l'accueil. Nous avons tous des forces et des faiblesses dans notre foi. On ressemble tous, finalement, à une brindille de bois. On est fragile. La preuve, c'est que si vous ramassez une brindille de bois dans la forêt, vous la casserez facilement. En revanche, si vous faites un fagot de bois et que vous le nouez, je vous mets au défi de le briser. C'est sans doute une image que vous connaissez déjà, mais elle me semble pertinente pour cette question d'accueil mutuellement. On se porte chacun dans nos faiblesses et on est faible, chacun comme une brindille de branche. Mais ensemble, on est très certainement plus fort. Et on s'aide à grandir mutuellement pour célébrer ensemble la gloire de Dieu. Amen. Et je vous invite à prier. Je voudrais conclure cette prédication par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole que tu as voulu dans l'épître de Paul aux Romains. Merci pour l'exemple que Paul prend à deux reprises, à savoir Christ. Christ qui n'a pas recherché sa propre satisfaction, mais la nôtre, en donnant sa vie pour nous sauver. Christ qui nous appelle à l'unité, pour qu'on soit ensemble, pour proclamer ta gloire. Alors nous voulons ce matin, te demander pardon pour toutes ces fois où nous ne nous sommes pas accueillis mutuellement avec bienveillance. Aide-nous à progresser. Et nous voulons répondre également ensemble à ton appel pour nous accueillir mutuellement et célébrer ta gloire. Aide-nous par ton esprit puissant. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.